Adicias, bonsoir, vous êtes bien à l'écoute de l'émission. Et si demain, la culture, l'information, l'éducation, l'écologie prenaient le pouvoir face à la finance, eh ben, ce serait super. Et si les artistes révolutionnaient le monde, ce serait encore mieux. Et si la communication se faisait à travers la mode, pourquoi pas? Je salue au passage et je remercie Jean-Louis Arzac-Fraisse pour la réalisation, parce que sans technique, pas d'émission. Au micro, Christian Morito, mais pas que, puisque nous retrouvons aussi Landy Sella, mais qui va avoir le son dans quelques instants. Et puis plein de belles personnes dans le studio, ça fait plaisir. Avec Nicole Marine, qui travaille pour nous d'ailleurs, chargée de com pour Esprit Occitanie. Et puis nous avons aussi Chris Acat, donc, qui est une artiste qui va se produire avec d'autres artistes très bientôt chez nous. Alors je salue au passage Landy Sella, tu peux lui passer le micro. C'est bon.
Bon, bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Bienvenue. Et donc nous avons aussi au téléphone Gisèle Henriot, éditrice. Bonjour.
Ah. Bonjour.
Bonjour, bienvenue dans l'émission Et si demain l'humanité se portait mieux, et surtout si les sourires l'emportaient sur les grimaces et sur la finance, ce serait pas mal. Puisque, sauf vous avez créé, Gisèle Henriot, une maison d'édition Perspective. Et vous souhaitez valoriser tout ce qui fait de nous des êtres vivants, conscients, sensibles et bienveillants. Eh ben, je souscris
à ce que vous voulez. Écoutez, merci. Oui, c'est effectivement le but de donner, d'aider à l'enfant à avoir des références, à être bien dans sa vie, bien dans sa peau, retrouver un petit peu du bon sens, des fois, qui manque, on va dire, peut-être au quotidien, tellement on va vite, tellement on ne s'arrête pas forcément aux choses importantes.
Et au départ, vous êtes enseignante, directrice d'école en maternelle, et puis donc vous avez beaucoup travaillé, si j'ai bien lu, sur la qualité du lien qui nous unit aux autres et nous permet donc de vivre de manière chaleureuse, humaniste, humaine. Et puis vous êtes passé, un petit peu de l'autre côté, dans le sens où vous formez aussi des animatrices, des animateurs, des enseignantes et enseignants à l'éducation bienveillante, et puis vous publiez donc un certain nombre d'ouvrages, et vous venez d'ouvrir une nouvelle collection d'ailleurs.
Oui, c'est tout à fait ça. J'étais enseignante pendant une trentaine d'années, et puis j'ai beaucoup travaillé, donc j'étais directrice d'école en zone prioritaire, en REP, j'ai beaucoup travaillé donc sur les codes, sur tout ce qui faisait que notre lien était chaleureux avec les autres. Et je me suis rendu compte assez rapidement, en fait, que les enfants manquaient peut-être de références, de points de repère, de codes, hein, tout simplement. Et que c'était pas grand-chose, mais pour autant, ça pouvait orienter leur vie. Et je trouvais ça quand même trop dommage. C'était pour moi un immense gâchis. Et donc, je me suis orientée vers un travail sur ces codes, notamment celui où je travaillais autour des jeux de société, parce que ça structure beaucoup, et aussi autour du code relationnel de la politesse. Et à l'époque, je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas du tout à l'ordre du jour. C'était quelque chose qui semblait trop conventionnel, trop oublié. Et à tel point que mes collègues m'ont dit, au cours d'une discussion, m'ont dit « mais ça ne s'apprend plus, la politesse ». Et écoutez, ça m'a un petit peu tourmentée. Le sujet me passionnait parce qu'il y a évidemment une puissance incroyable derrière ce code. Et donc, j'ai décidé d'arrêter mon métier. J'en avais la possibilité. Et de me consacrer davantage à l'écriture et à la création donc d'une maison d'édition.
D'accord. Je vais passer la parole à mon ami et néanmoins confrère Landy Sella, qui a listé 50 questions, je crois. Donc, je lui passe la parole.
Parmi nous.
Merci.
Je commence en fait tout simplement parce que vous formez des, en fait comme Christian il vient de dire, vous formez des animateurs et en fait oui. Des enseignants, etc. Vous avez observé beaucoup en fait la vie de famille. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui des carences, si je peux appeler en fait la fonction père-mère dans les familles?
Ah, c'est un vaste débat, votre question. Parce que on a tous le sentiment, si vous voulez, d'une sorte de démission. Parce que chaque fois que ça nous arrange, on accuse rapidement les parents. Et quand on analyse un petit peu mieux les choses, on se rend compte que être parent, c'est extrêmement difficile. Ça n'a jamais été aussi compliqué. On a perdu, en quelque sorte, depuis les années 60, tous nos points de repère. Avant, il y avait l'autoritarisme avec la puissance paternelle qui imposait tout. La loi suivait d'ailleurs complètement cette autorité parentale, paternelle essentiellement. Et la femme était plutôt dans un rôle de soumission. Et on est passé progressivement à des rôles plus équilibrés dans la famille. Mais ça a remis en question beaucoup de choses. Et parallèlement, on s'est rendu compte que l'enfant était une entité à part entière, une personne à part entière, comme le disait Dolto, et qu'il fallait considérer ses besoins. Alors qu'auparavant, l'enfant, non, il devait obéir, point. Alors l'éducation, qui était quelque chose de facile, puisqu'on reproduisait simplement ce qu'on avait nous-mêmes subi sur le plan éducatif, est devenue beaucoup plus complexe parce que le parent, il a la mission de rendre son enfant heureux. Et c'est pas une moindre affaire. Donc on ne sait plus comment s'y prendre, on ne sait plus comment bien faire, on a tendance à penser que quand on lui dit non, ben en fait, on ne satisfait pas ce besoin de bonheur, ça nous culpabilise. Et le parent n'a jamais été autant sollicité, en fait, mais n'a jamais été aussi dépourvu en moyens. Et c'est ce qui fait qu'on peut avoir tendance à penser qu'il y a une démission. Mais je crois que maintenant, on n'a pas d'autre solution que de prendre à bras-le-corps le problème éducatif et de coopérer entre institutions, entre parents, toutes les personnes qui sont concernées par l'éducation d'un enfant, que ce soit en milieu professionnel ou en milieu familial, il faut vraiment qu'elles se donnent la main, qu'elles coopèrent et qu'elles aillent toutes dans le même sens. Si je peux, voilà, raccourcir un petit peu le débat.
Oui, et aujourd'hui, en fait, parce qu'avant... La mission de l'école, c'était de la transmission de savoir, la transmission de savoir-faire. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la famille qui change, la famille qui a muté également, l'école doit changer aussi?
Oui, bien sûr, parce que si on ne prend, par exemple, que la notion de savoir, l'école ne peut plus prétendre tout savoir. On ne peut plus être dans une autorité traditionnel, autoritariste, où l'élève écoute, obéit et ne fait pas. Et la science, en quelque sorte, descend sur lui du haut par l'intermédiaire de son maître. Ce n'est plus possible. Le savoir, on l'a de différentes façons, notamment par les réseaux sociaux, notamment sur Internet. Le savoir est vraiment maintenant horizontal, il n'est plus vertical. Donc l'école est dépossédée en quelque sorte de ce savoir. Et il faut qu'elle trouve un autre positionnement, parce qu'autrement elle n'est plus crédible. Elle peut même être mise en cause, à certains moments elle peut aussi se tromper, et il faut qu'elle se repositionne.
D'accord. Parce que aujourd'hui, je fais un petit pont en fait entre l'éducation, en fait, l'enseignement et l'éducation à la française.
Oui.
Aujourd'hui, nous sommes un exemple dans le monde. En tout cas, ce qu'on dit à l'étranger, notamment, je prends comme référence un livre de Pamela Druckerman.
Oui.
Qui parle de l'éducation à la française et qui prend comme un exemple dans le monde.
Alors, oui, notre éducation à la française, vous voulez dire pas en tant qu'école, en tant que, qu'éducation traditionnelle
L'ensemble, l'école, en fait, moi je vois en fait très complémentaire. Parce qu'aujourd'hui, quand on parlait tout à l'heure de transmission de savoir et de savoir-faire, aujourd'hui, à l'école, parfois, on est obligé de passer dans le savoir devenir. Aujourd'hui, on sort diplômé, nos diplômes, on peut exercer un métier pendant 10-15 ans, nos diplômes deviennent quelque part parfois caducs. Donc, il faut savoir aussi devenir, d'être diplômé et de devenir quelqu'un d'autre, de savoir créer, de savoir être. Ça, c'était pas avant dans l'école, on le trouvait dans la famille plutôt. Et aujourd'hui, moi, je trouve très complémentaire. Même ce livre que je viens juste de citer prend en fait un exemple, la famille plutôt, l'éducation à la française.
Oui, je comprends ce que vous voulez me dire. Mais en même temps, si vous regardez bien le système éducatif, il est pourtant beaucoup remis en cause dans notre pays par rapport aux autres pays, notamment par l'intermédiaire de l'enquête PISA, qui nous pointe un petit peu du doigt parce que nous sommes dans la France est un des derniers pays sur les 72 qui font l'objet de cette étude. On est l'un des derniers pays en ce qui concerne la réduction des écarts. Et c'est là qu'il y a tout ce qui a le drame, en fait. C'est qu'un enfant, auparavant, l'école de la République avait pour mission essentielle de réduire les écarts. Et par rapport à cette mission-là, l'école française est en difficulté. On réduit moins les écarts, non seulement on les réduit moins, mais on les accroît. Et c'est vraiment un drame, c'est qu'il y a un endroit, un moment où on guide les enfants, mais pas forcément de la bonne façon, on accroît les écarts. Donc il faut vraiment qu'on se remette en cause pour que l'école soit vraiment un ascenseur social, que l'école donne la chance à tout le monde. Qu'on soit né dans un quartier difficile ou pas, il faudrait que tout le monde ait la même chance. Et je pense que l'éducation nationale y travaille, puisque les réformes qui arrivent, qui se succèdent, vont quand même globalement dans un sens, dans le sens où on donne plus de moyens dans les secteurs où il y a plus de choses, si vous voulez, à mettre en place.
Alors, par rapport à ce qui vient d'être dit, je rappelle d'abord que donc vous venez de créer, enfin vous avez créé il n'y a pas si longtemps que cela, il y a peut-être quelques années, mais pas trop, les éditions Perspective, donc où vous sensibilisez au vivant, au conscient, donc au bienveillant, à toutes ces thématiques qui sont importantes. Mais moi j'ai en tête par rapport à ce qui vient d'être. Que vous venez de dire, qu'a signifié Landy aussi. Notre président de la République parle toujours de premier de cordée. Alors, il faut qu'il y ait un premier de cordée, toujours le premier de cordée. Donc, ça veut dire que si vous n'êtes pas en tête, vous n'êtes plus rien. Je trouve que là, il n'y a plus la notion de partage, de coopération. Nous sommes dans une société de compétition. Et est-ce qu'il faut que l'éducation nationale colle à la compétition ou est-ce qu'elle doit ouvrir l'esprit des enfants à la critique, à la philosophie, donc à des alternatives et pas suivez mon exemple, je suis le premier de cordée, je m'appelle Emmanuel Macron, suivez-moi.
Moi, alors, bon, je prends cette formule pour une formule, si vous voulez, politique, pour quelque chose qui veut être un marqueur, pour que ça reste dans les esprits. Sur le plan concret, il y a un ministre qui s'entoure de spécialistes des neurosciences. Et je ne sais pas du tout ce que donnera la réforme à venir concrètement dans les maternelles, mais je suis par ailleurs contente de voir que Boris Cyrulnik prône la notion de plaisir à l'école, parce que je pense vraiment qu'on s'en est éloigné par l'esprit de compétition, justement. La notion de plaisir, elle me semble essentielle. Il me semble que quand un enfant vient à l'école par plaisir, est heureux, il a toutes les conditions pour que tout passe dans sa tête. il accueille les informations. Et c'est ça qui me semble essentiel. Après, une réforme peut très bien avoir être attirante, si vous voulez, intéressante sur le plan théorique. Il faut voir ce que ça donnera dans la pratique. Mais sur le plan théorique, la notion de plaisir me semble extrêmement importante. Par contre, vous parlez de compétition, et ça, je crois que c'est un drame, vraiment. Et les neurosciences, justement, nous éclairent à ce sujet, nous donnent des pistes. Les neurosciences nous disent que l'humain, il est fait depuis la naissance, il est pré-câblé pour vivre en société. Il tire des autres déjà la conscience de lui. Sans les autres, il n'existe pas, sa conscience n'émergerait pas. Les neurosciences nous disent qu'on a besoin des autres parce que ce sont eux qui nous donnent la confiance en nous, ce sont eux qui nous font exister par leur regard, par leurs remarques, qui nous donnent la reconnaissance, qui nous donnent une place dans la société. Et chaque fois qu'on va dans le sens du collectif, de la solidarité, de la coopération, chaque fois, en fait, on ouvre l'esprit de l'enfant. Chaque fois qu'on le place en compétition avec ses congénères, à chaque fois, on ferme les portes, en quelque sorte. Et la compétition rend malheureux. Maintenant, on le sait. Il y a quelques décennies, on ne le savait pas. Maintenant, on n'a même plus cette excuse-là. On sait qu'on s'est trompé pendant quelques décennies, que la compétition isole, que la compétition attriste les gens, que la compétition met en concurrence et de façon la plus pénible qui soit. On parle maintenant d'intelligence collective. Avant, on n'en parlait pas. On sait, par exemple, que quand on se regroupe, si on est quatre, eh ben le résultat, séparément, on arriverait à chacun, mettons, un résultat de quatre au total pour le groupe. Mais si on travaille au niveau d'un groupe, ça va faire plus que quatre, ça va faire cinq ou six. Et donc, l'intelligence collective, elle est même utilisée par les entreprises qui ont toujours un temps d'avance sur les politiques, pour obtenir davantage de dynamisme dans une équipe et aller plus loin. Et ça, maintenant, le savoir, on l'a grâce aux neurosciences. On ne peut pas rester dans de la compétition. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a quelques années, il y a encore des classes de prépa où certains étaient notés au négatif, hein, avec des moins 3, moins 5, alors que c'était des élèves qui, jusque-là, avaient été brillants. Mais qu'est-ce qu'on produisait ? On produisait des déprimes, forcément. Parce que c'était dramatique pour ces jeunes qui, tout d'un coup, se retrouvent en échec alors qu'ils avaient été, au contraire, très, très brillants dans les années précédentes. Et maintenant, on comprend un peu mieux comment fonctionne notre cerveau, et il y a des évidences vers lesquelles il faut que l'éducation en général, que ce soit parentale ou institutionnelle, se dirige, tout simplement.
D'accord. Merci pour ces précisions. Allez, une dernière question, Landy. Alors, je rappelle, parce que l'heure tourne déjà toujours trop vite. Gisèle Henriot, quand même, je rappelle que vous avez créé les éditions Perspective. Donc, oui. Éditrice intéressante avec des thématiques intéressantes. Alors, dernière question posée par mon ami Landy, c'est la...
Gisèle, la dernière question. Que pensez-vous des écoles alternatives aujourd'hui ? Parce que vous avez travaillé pendant 30 ans, en fait, comme enseignante, directrice de l'école maternelle. Est-ce que vous avez un avis par rapport à ces écoles ?
Alors... Si vous voulez, c'est une étiquette école alternative. Comme on va avoir des écoles qui vont avoir des noms de chercheurs, je pense notamment à quelqu'un qui est plus dans la reconnaissance actuelle, aux écoles Montessori. Mais vous avez de tout. Ce qu'il faut voir, pour ne pas s'arrêter à l'étiquette, ce qu'il faut voir, c'est ce qui est vraiment fait. Est-ce que les besoins des enfants sont reconnus ? Est-ce qu'on répond aux besoins des enfants ? Est-ce qu'on est plutôt dans de l'encouragement que dans du compliment ? Est-ce qu'on est dans l'acte éducatif ? Est-ce qu'on est dans de l'accompagnement ? Ou est-ce qu'on est dans une autorité verticale ? Est-ce qu'on guide l'enfant ? Autant de questions, si vous voulez, qui, au-delà des étiquettes, vont traduire la réalité de l'enfant. et c'est ça qui compte. On peut être en école publique dans d'excellentes méthodes éducatives qui vont respecter l'enfant et le pousser vers le meilleur de lui-même, lui apporter des points de repère, lui donner des valeurs, lui donner des références et lui donner envie, le plaisir et envie de faire par lui-même. L'école ne doit pas faire de bons petits soldats, l'éducation non plus, mais on doit amener les enfants à être eux-mêmes heureux dans ce qu'ils ont, dans ce qu'ils font, et à s'inscrire, prêt à s'inscrire, si vous voulez, dans la société, à respecter en quelque sorte le fonctionnement du groupe. Et c'est ça qui me semble plus important que l'étiquette, si je puis me permettre de vous donner cette réponse-là.
Merci.
Merci Gisèle pour votre réponse.
Donc directrice fondatrice des éditions Perspective, et au plaisir de vous retrouver, et nous vous ferons signe quand le podcast, grâce à notre ami Jean-Louis Arzac, sera en ligne.
Écoutez, je vous remercie beaucoup de cette écoute, et puis je vous souhaite une excellente fin de journée.
Merci de même.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir. Et donc maintenant, nous pénétrons dans le studio d'Esprit Occitanie, à pas de loup, à pas feutré, pour rencontrer aujourd'hui, nous avons des invités au féminin, et c'est tant mieux puisque c'est la création. Et donc, dans le studio, nous avons Krissa Kat, qui est créatrice de plein de choses, de bracelets originaux, de boucles d'oreilles, de pochettes en tissu africaine, de sacs transformables. Alors, je ne sais pas en quoi, peut-être que nous allons être aussi transformés dans cette salle, dans ce studio. Et puis, mais aussi, tu es présidente de TV Sol, qui est une télévision associative sur Internet. Bonsoir, bienvenue chez nous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, qu'est-ce qui t'a amené comme ça à la création? Et puis, il faut dire qu'aussi, il va y avoir d'ailleurs très prochainement, puisque c'est le week-end qui arrive, une manifestation à Toulouse.
Alors, ce qui m'a amené à la création, j'ai toujours dessiné, créé depuis toute petite, travaillé avec des aiguilles, regardé mes grands-mères coudre, me poser des questions de comment c'est fait. J'ai vécu longtemps à l'étranger, donc en Afrique et au Congo, d'où le fait que je travaille avec des tissus africains, de la wax. Et voilà, on était dans un endroit où tout était transformé en jouets, en décorations. J'ai toujours vu ça chez moi et du coup, c'est naturel. Ensuite, je suis venue pour parler du marché des créateurs d'Etsy. Donc Etsy, c'est une plateforme de boutiques de créateurs. Sur Toulouse, on est à peu près 180 créateurs. Pour ce marché qui a lieu samedi et dimanche au Labo ICOS, on est une trentaine.
Ça se situe où ?
Le Labo ICOS, c'est quartier Saint-Aubin, au 32 rue Pierre-Paul Riquet. Et voilà, on est 32 créateurs à présenter des choses très très différentes, des matières très différentes, du bois, du tissu, des bijoutiers, vraiment des gens qui... On a essayé de varier le plus possible la sélection des créateurs pour qu'il y ait un très beau panel de plein de choses qui se font sur Toulouse et de faire la promotion de ce qui est fait sur Toulouse et localement.
Landy ?
La première question, elle a déjà répondu, en fait, ce que j'avais préparé, donc c'est grillé. Comment tu décris en deux mots Krissa, en global?
Alors, en fait, je suis artiste, pas uniquement créatrice de sacs et bijoux, je suis artiste peintre. Je suis illustratrice et je suis aussi graphiste. Je propose mes services en illustration et en peinture pour de la communication.
Comment tu travailles au quotidien ?
Chez moi, dans mon atelier. je ne sais pas, je couds, je regarde certains livres, j'ai certaines références. J'ai une formation de designer, donc je bidouille beaucoup en fait.
Oui, parce que j'ai vu en fait sur ton site graphisme, design, produit, aménagement, stylisme. Web, vidéo, C'est pour ça, en fait, ma question. Alors, comment tu travailles au quotidien?
À la base, j'ai un diplôme de design, de designer global. Par contre, en France, le fait d'être polyvalent n'est pas forcément mis en valeur. En général, on dit que plus on sait faire de choses et moins on est vraiment performant, ce qui est complètement pas du tout ma façon de penser. Et du coup, c'est vrai que j'ai cette formation où j'ai fait du stylisme, où j'ai fait du design produit, où j'ai travaillé en agence après. Et dans cette agence, j'ai aussi pu développer toutes ces compétences. Et au quotidien, bah, je cherche des clients, j'explique que je peux faire certaines choses. J'ai accédé à des formations pour compléter en vidéo, en web, parce qu'il faut toujours être à jour, quoi.
Et est-ce que la vie d'artiste est une vie facile ?
Ah non. C'est une vie de survie. Mais au-delà du financier, c'est quand même passionnant. Enfin, on fait ça parce qu'on est passionné, parce qu'on a envie, parce qu'on a envie de partager. Enfin, bien sûr qu'on aimerait pouvoir vivre de son art, mais on est très peu nombreux quand même à en vivre.
Quelle est ta marque de fabrique en termes de création, de stylisme ou de peinture?
Je dirais une couleur. Je travaille beaucoup le orange. Et puis sur tout ce qui est tissu, donc ce que j'ai dit, c'est plutôt des wax et du coup le graphisme dans le wax, parce qu'il y a vraiment des dessins et des choses qui sont très marquées. Et finalement, c'est ce qu'on retrouve aussi dans ma peinture et dans ma peinture et dans mes illustrations.
Et la création, à un moment donné, elle vient comment? Le coup de cœur, c'est en observant les gens, en voyant des choses, se baladant dans la nature, en allant se ressourcer, que sais-je?
Alors, souvent pour les objets, c'est un besoin. C'est-à-dire que je me rends compte que j'ai besoin d'un sac qui soit pratique et que je peux balader partout. Et du coup, je fais un sac qui se roule et qui peut me servir quand j'ai des courses à faire. C'est différentes choses quand c'est un besoin. Après, la nature, forcément, j'ai besoin aussi de m'évader et de les lectures. Même si je suis une dyslexique, donc la lecture est une grande difficulté pour moi. Mais ouais.
Bienvenue au club.
Oui.
Quels sont tes lieux préférés à Toulouse? Tu es toulousaine, non?
Oui. Je dirais le jardin des plantes. J'avoue que je fais beaucoup d'allers-retours dans le jardin des plantes parce que l'évolution de ce jardin. Dans tous les mois toutes les saisons est très chouette et je trouve que les gens dans ce côté naturel sont plus sympas que dans la ville et dans le béton. J'essaye de sortir en fait, de faire des randonnées. Alors j'ai pas forcément de nom parce que je connais pas forcément les noms, mais j'essaye de faire des randonnées à l'extérieur, oui, en campagne.
Occitanie, elle est très belle, donc bien équipée en randonnée, en montagne ou alentour. Et si tu avais à choisir un designer ou un peintre, un graphiste, un styliste, que tu as un coup de cœur, ce serait lequel
ou laquelle?
Alors, c'est un peintre américain qui s'appelle Kehinde Winsley. Et qui est donc noir américain et qui travaille sur des portraits qui sont très 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 grands de célébrités avec des fonds qui sont réalisés sur la thématique des tissus africains. Donc tous ces fonds de tableaux sont des tissus africains et il fait des portraits de personnalités à taille réelle.
D'accord. Toi, tu fais la même chose ou...
Non, pas du tout. Pas du tout. Mais c'est vrai que j'ai toujours admiré cet artiste. Et
c'est le tissu africain qui fait le lien.
Oui, je pense. Et puis il y a un côté, un peu critique. Enfin, il met ses personnages en position de portrait comme des rois et des reines dans le temps. Et du coup, il y a un, je sais pas, il y a un paradoxe dans sa manière de travailler qui m'intéresse.
Et donc, de ce que nous allons revenir vers toi, rappelle-nous d'abord l'événement qui va avoir lieu le week-end à venir. C'est important de le redire à nos amis auditrices et auditeurs d'Esprit Occitanie et de l'émission Ici Demain.
C'est un marché de créateurs qui est le Etsy Made in France, qui célèbre les créateurs locaux. C'est donc le 2 et 3 juin, samedi et dimanche, de 10h à 19h, au Labo Icos, 32 rue Pierre-Paul Riquet.
D'accord, merci. Nous revenons vers toi dans quelques instants, après la pause en chanson. Mais d'abord, nous allons nous adresser quand même à celle qui est aussi là dans le studio, Nicole Marine, qui est chargée de communication et en plus pour Esprit Occitanie, ça tombe bien. Mais qui a une maman qui en plus est créatrice aussi.
Exactement.
Et alors, dans quel monde elle est de la création ?
Alors, ma maman fait des vêtements ethniques, mais elle se base aussi beaucoup sur le batik. Donc, la plupart de ses créations sont composées de batik. Mais elle fait aussi pas mal de mélanges avec des couleurs basiques telles que le noir, le chocolat, le rouge, le bleu. Et du coup, ce week-end, elle organise un défilé. Ça se déroulera le 2 juin à La Beige, à l'Orangerie, qui se situe au 110 rue de Tsatis. L'entrée coûte 30€, mais elle comprend le repas, les boissons, toute la soirée. Il y aura un défilé et ce sera une soirée dansante et très conviviale. Il y aura beaucoup de monde. Voilà, vraiment, c'est vraiment pour faire découvrir la Tanzanie, mon pays d'origine. Et donc voilà, j'espère vraiment que ça va vous plaire, ça va vous faire voyager. Et d'ailleurs, les tickets d'entrée sont sous forme de visa. Donc je trouve que c'est très original. Et toute la soirée se base, c'est une espèce de tourisme. La soirée s'appelle donc Safari Night. Et le lendemain, le dimanche 3 juin, elle organise aussi un Safari Market, où vous pourrez aussi déguster du thé et des mets tanzaniens, qui se déroulera également à l'Orangerie à La Beige. Et vous pourrez aussi venir avec vos enfants, parce qu'on proposera des activités artistiques. Elle exposera aussi ses créations, ses accessoires, ainsi que celles de Tonier Fashion, que vous pourrez trouver sur Facebook, et de Amina, qui crée des accessoires, essentiellement des chaussures, et qui sera également là pour présenter certains de ses accessoires le soir du défilé.
D'accord. Alors, question indiscrète ou pas, je ne sais pas, tu n'es pas obligé d'y répondre. Tu es née en Tanzanie, tu es née à Toulouse, en Occitanie.
Voilà, moi je suis née en Tanzanie et je suis venue en France à mes 4 ans. D'accord. Et donc voilà, ma mère est tanzanienne.
Et alors donc, tu as eu un choc des cultures, on va dire, même si tu étais toute petite.
Exactement.
Et est-ce que tu es revenue après en Tanzanie ?
Non, mais c'est un projet qui dure depuis des années en fait. Et vu que je fais mes études, c'est assez compliqué parce que j'ai des impératifs. Mais j'aimerais beaucoup y aller cette année ou l'année prochaine, c'est à prévoir. Et on a beaucoup de projets qui vont se réaliser là-bas et qu'on va rattacher aux soirées et notamment au défilé et à ses créations qu'elle réalisera ici à Toulouse.
D'accord. Landy, tu avais
fait des études en communication, c'est voilà. Ça ? Pourquoi tu as choisi la communication ?
Alors, de base, je vais devenir directrice artistique. Mais je me suis dit que voir tous les métiers de la communication, ça pouvait être intéressant. Et il y a tellement de choses à faire, en fait, que je suis très contente de me retrouver là. Et je ne sais pas trop où ça a mené, du coup, parce que moi, je suis intéressée par l'art, tout ce qui touche à la mode, à la beauté, tout ce qui est sensible, en fait. Donc, j'espère trouver mon bonheur, mais on verra. Je fais mes premières expériences ici à la radio et pour l'instant, c'est top.
D'accord. Bon, merci pour nous. Alors, qu'est-ce qui, justement, donc, tu as quelques jours ou quelques semaines de pratique au sein de l'équipe d'Esprit Occitanie. Comment tu as trouvé l'ambiance ? Qu'est-ce que tu as envie d'y faire ? Qu'est-ce que tu as envie que tu nous apportes ?
Alors, vu que la radio vient de débuter début 2018, j'espère apporter tout ce qui vous manque côté communication. Ce que je trouve de génial ici à la radio, c'est que tout le monde est agréable en fait. Il y a un bon esprit de groupe et c'est ce que j'espère mettre en avant dans les prochaines semaines qui arrivent sur les réseaux sociaux. Et j'espère que ça va bien se développer du coup, parce que moi j'adore les contenus, une chose que je connaissais pas avant. Et voilà, je suis très contente pour une première expérience. Franchement, c'est super.
Bah écoute, merci pour ce retour. Hein, nous,
S'il y a un savoir-faire, tu vas le faire savoir ailleurs, ce qui se passe ici.
Voilà, merci. Exactement, avec plaisir.
C'est super et ravi de faire ta connaissance de visu, puisque je t'avais vu juste, j'avais aperçu en photo sur la page Facebook d'Esprit Occitanie, mais là, ça permet de dialoguer et en plus, tu avais une information à donner. Donc c'est important. Tu nous rappelles d'ailleurs cette information, c'est...
Alors, une soirée dînatoire dansante avec un défilé qui sera le 2 juin, donc ce samedi à La Beige, 110 rue de Satis. Et le lendemain, vous pourrez aussi trouver un safari market avec plein d'accessoires, de créations, d'alimentation, tout ce que... Voilà, pour passer un bon moment, qui se déroulera de 10h à 17h. Et pour samedi, ce sera de 20h à 3h du matin.
D'accord. Et donc, ta maman est créatrice et toi, tu es chargée de communiquer sur tout ce qu'elle le crée.
Finalement. Exactement. Voilà.
Donc, c'est parfait. C'est l'accord parfait, finalement.
C'est ça, on se complète.
Merci. Et puis, donc, nous reviendrons aussi vers toi, Nicole. Allez, je vous propose de marquer une pause en chanson. Et c'est le premier clip, là, d'ailleurs, d'un groupe qu'a cofondé Damien Moreto, qui est l'auteur de l'indicatif de l'émission « Et si demain » et aussi de l'émission « Traversée » qui se déroule en direct aussi le vendredi matin entre 10h et midi. Son groupe, c'est Melting Blue et ça s'appelle « Argente Naranja ». À tout de suite.
Descargaron sobre Vietnam 76 millones de litros de agente naranja, un herbicida. medida para deforestar la selva que acabó contaminando 30.000 pueblos y aldeas. En el hospital Turu de Ho Chi Minh atienden en estos momentos a más de 60 niños afectados.
De los gases y el
Yes, bonsoir, bonjour, tout ce que vous voudrez. Bon appétit si vous êtes à table, ou bon thé si vous buvez le thé, ou bon café, que sais-je, peu importe. Le tout, c'est que vous soyez à l'écoute de l'émission ici demain sur Esprit Occitanie, bien sûr, puisque nous avons plein de charmantes personnes dans le studio et que tout se passe bien et que ce que nous a dit Nicole Marine, c'est adorable et c'est super pour nous. Merci, Marie. Et nous recevons bien sûr avec plaisir aussi Christa Kat, créatrice. Nous allons en reparler dans quelques instants, mais une information aussi importante, ça sera le week-end suivant, puisque l'association Cocopelli, qui maintenant est basée au Mas d'Asile, qui est une association à but non lucratif, œuvrant pour la libération de la semence et la protection de la biodiversité cultivée et sauvage, eh bien, elle va organiser les 8, 9 et 10 juin prochains un festival nommé les Tambour de Gaïa, qui va rassembler donc plein d'informations, plein d'ateliers, mais aussi du festif, puisque notamment la chanteuse Camille soutient Cocopelli, mais ce n'est pas la seule. Il va y avoir donc plusieurs spectacles de programmés. Et puis la venue, et que nous connaissons bien aussi, de Christian Vélo, qui est un chercheur qui a dénoncé notamment la culture des OGM de plein champ et qui a vu donc ses, on va dire, ses subventions de couper pour ses recherches. Il y aura aussi Maître Blanche Magarinos-Ray, qui est l'avocate de Cocopelli. Il y aura aussi le professeur Henri Joyeux, qui est décrié maintenant parce qu'il s'oppose, et nous aussi, à l'imposition du gouvernement et notamment de la ministre de la maladie d'envoyer 11 vaccins en même temps et plusieurs fois, comme ça
tu voulais dire,
voilà, ministre de la maladie, les 11 vaccins obligatoires, émission que nous avons fait à charge, et je pense et j'espère pouvoir en faire une autre d'ici la fin de la saison radiophonique. Donc plein de choses qui vont se passer, vous pouvez aller sur leur site www.festival-cocopelli.fr. Vous aurez tout sur les concerts et notamment de Camille, mais pas que. Allez-y, ça vaut le coup et nous aurons, j'espère, dans l'une des émissions, en tous les cas, j'espère bien avoir quelqu'une ou quelqu'un pour nous en parler plus précisément. Un petit bouquin aussi à lire et à découvrir que je viens de recevoir, Cyril Dion, Petit manuel de résistance contemporaine. Cyril Dion qui a co-réalisé le documentaire Demain, qui a cofondé avec Pierre Rabhi aussi le mouvement des Colibris, et qui fait plein de choses, et que moi, j'ai eu le plaisir déjà d'interroger de manière sympa, notamment pour TV Sol d'ailleurs. Et donc, Chrissa Kat, qu'est-ce qui a fait que justement tu sois aussi devenue présidente de TV Sol, télévision sociale, écologique, culturelle, humaniste
Je crois à un partage de valeurs. À la base, je suis rentrée à TV Sol en tant que stagiaire pour créer le site internet. Et puis, bah, de fil en aiguille, je suis devenue bénévole. Je me suis impliquée dans le conseil d'administration. Et puis, bah, j'ai été élue présidente. parce que, effectivement, je partage ces valeurs. Je suis quelqu'un qui suit dans la solidarité. J'aime m'impliquer, j'aime partager et faire les choses ensemble.
Et tu es aussi une passionnée. Et heureusement, je dirais, pour la création.
Oui. Je crée tout le temps. Je suis. C'est ma manière d'être.
Landy.
En tant qu'on parle des créations, Chrissa, elle peut nous parler aussi où on peut trouver en fait ces créations par rapport à.
Alors j'ai la partie peinture qui est en vente sur une galerie qui s'appelle la galerie Tahar. Taar.fr, qui est une galerie qui est sur internet et qui est locale, qui fait la promotion des peintres de la région. Cette galerie a choisi certaines peintures que je crée qui s'appellent Les Mots. Donc Les Mots, M-O-T-S, Les Mots, M-A-U-X. Et ce sont des peintures sur une période où j'ai eu une maladie. Et j'avais besoin en fait d'exprimer après cette maladie certaines choses par la peinture. Et voilà, ça a donné cette série de toiles que vous pouvez voir sur la galerie tahar.fr.
Comme quoi, l'art aussi peut nous aider, comme l'écriture, à exprimer parfois une souffrance, parfois autre chose, les joies, les peines, tout. C'est une traversée, c'est la vie finalement.
Oui, et puis c'est vrai que je le disais tout à l'heure, je suis dyslexique, donc j'ai vraiment un problème avec les mots M-O-T-S. Et ma manière d'exprimer, c'est vraiment la création, la peinture, le dessin, c'est comme ça que je m'exprime.
Et tu t'exprimes bien. Après, le tout, c'est de percer. Mais maintenant que tu as fait la connaissance de Nicole, c'est bien, Marine. Vous allez pouvoir communiquer. Elle va pouvoir faire la communication. Toi, tu vas pouvoir lui renvoyer, peut-être, que sais-je, l'ascenseur, la balle avec la création de sa maman. Enfin, les créations de. Enfin, c'est super. Si ça se passe comme ça, en tous les cas, c'est gagné pour nous, pour l'émission et ici demain.
Un bel échange, un beau partage.
Marie. Enfin, Nicole, plutôt, qu'est-ce que tu as envie de dire ? Est-ce que cette rencontre-là, ça...
Alors oui, moi, je suis très contente de la rencontrer. Je vois qu'on a beaucoup de projets. Enfin, il y a beaucoup de choses on a beaucoup de choses en commun, quoi. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être réalisables. Et voilà, du coup, je suis très contente de faire sa connaissance aujourd'hui, qui est un petit peu un hasard. Et du coup, ça fait bien les choses.
Peut-être qu'il n'y a pas de hasard, mais...
Ah ouais.
C'est nous qui avons relié les fils. Si tu es venu à Esprit Occitanie et que Chrissa a fini par être disponible avec un événement pour venir, c'est que voilà, ça devait se faire finalement.
C'est ça.
Ah oui, ça. Et pour Chrissa, tes projets pour l'avenir, qu'est-ce que tu as comme. À nous dévoiler certaines choses que tu gardes un petit peu.
Alors, je suis en train de travailler sur. J'essaye de travailler sur une nouvelle série de peintures, mais une peinture qui mélangerait un peu tout ce que je sais faire en couture, en broderie. Je suis vraiment en phase de recherche, donc je n'ai pas pour le moment de choses à proposer. Mais j'essaie de condenser en fait toutes les techniques que j'aime, et qui sont la peinture, l'illustration, et aussi tout ce qui est couture, broderie dans mes créations accessoires.
Quelle serait pour toi vraiment la
collaboration de tes rêves, de travailler, de partager avec quelqu'un, si tu avais aujourd'hui un choura ou vraiment quelque chose qui est pour toi...
J'en ai aucune idée. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas.
Alors, comment s'est faite la rencontre ? Donc, est-ce que tu peux nous rappeler l'événement du week-end à venir, 2 et 3 juin ? Comment s'est faite la rencontre, justement, entre toutes et tous ces artistes ?
Alors, la plateforme Etsy, donc c'est une... Alors, je rappelle que le marché est le samedi 2 et dimanche 3 juin de 10h à 19h au Labo Ecos, 32 rue Riquet. Etsy est une plateforme de vente, enfin de boutique de créateurs qui est internationale. Dans chaque ville et dans chaque région, on crée des équipes. Donc on a des équipes, il y a une équipe à Toulouse dont je ne suis pas le capitaine, puisqu'il y a des capitaines d'équipe qui gèrent les groupes et qui gèrent les créateurs pour leur proposer des événements. Ils n'étaient pas disponibles sur cette édition-là, donc on s'est réunis à quatre pour pouvoir l'organiser. Et donc on lance des appels aux créateurs qui ont envie de participer et ensuite on fait des sélections en fonction de tous les créateurs qui nous envoient des réponses. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile de sélectionner des gens, surtout quand on a peu de place et qu'il y a 180 créateurs dans cette équipe à Toulouse.
Vous avez un nombre limité de...
On avait un nombre limité par rapport à l'espace, oui.
D'accord. Donc il y a beaucoup
de refusés. Malheureusement. Mais il y aura d'autres événements. Il y a un autre événement qui sera fait à Noël. Et tous les mois, l'équipe organise avec Clutch Magazine des soirées où il y a quelques créateurs qui peuvent se présenter.
C'est quoi Clutch Magazine ?
C'est un magazine de concerts et d'informations sur...
Un petit format, c'est
oui,
ça ?
Oui, voilà, c'est ça. Et ils organisent des soirées et une fois par mois. Et c'est, dans ces soirées-là, il y a des créateurs Etsy aussi.
D'accord. Et nous avions reçu, parce qu'il a plusieurs casquettes, Loïc Blanc, qui est un des concepteurs du magazine et aussi un des salariés d'Enercop. Voilà, entre autres. En plus, il fait plein de choses.
Je n'avais pas le lien, moi, avec Enercop. D'accord.
Nicole, Marine, qu'est-ce que tu as envie de dire ? Peut-être nous rappeler aussi l'événement auquel participe de manière très active ta maman.
Voilà, donc ça sera ce samedi, le 2 juin, de 20h à 3h du matin, à l'Abège, à l'Orangerie. C'est au 110 rue Tsatis, au 31 670 l'Abège. Le lendemain, vous aurez un safari market qui commence à 10h et qui se termine à 17h. Vous pouvez amener vos enfants à partir de 6 ans, car nous proposerons des activités artistiques. Et vous pourrez y trouver tout un tas d'accessoires, de vêtements. Enfin, tout ce que vous trouverez là-bas, ce seront des créations et tout est fait main, quoi. Tout est fait main et vous verrez de toute façon les créatrices si vous décidez de venir au Safari Night. Et vous verrez que, ben en tout cas, c'est génial. Moi, j'ai hâte d'y aller et de voir un peu ce que ma mère a préparé parce qu'elle m'a fait des petites surprises, quoi. Elle ne veut pas que je vois tout. Donc voilà. Mais je sais qu'en tout cas, le soir du 2 juin, ça va être vraiment fabuleux. Et ben, je clôture le défilé et c'est moi qui l'ouvre aussi. L'entrée est à 30€ et elle comprend le repas et les boissons tout au long de la soirée. Et pour le dimanche, vous pouvez rentrer... avec un PAF qui coûte 5€ et elle sera gratuite pour les enfants de moins de 10 ans.
D'accord, donc ça veut dire que c'est toi qui vas ouvrir un petit peu la manifestation et la clôturer.
Voilà, c'est ça. Parce que c'est un projet auquel elle tient beaucoup. Du coup, moi aussi, j'y tiens beaucoup. C'est important, ce sont mes racines d'un côté. Puis j'aime beaucoup la mode, ça me fait beaucoup, très plaisir de l'aider. Et elle a choisi des personnes qui sont très agréables, que je connais aussi. Donc pour moi, c'est un projet qui est très important aussi. Et pour cela, je vous invite à nous retrouver sur Facebook à l'adresse Icoma Line. Et voilà, donc là, vous pourrez suivre toutes les informations et tout ce qui va suivre. Parce que bien sûr, il y aura bien d'autres événements. Et je ne vous en dirai pas plus parce que vous en saurez plus si vous venez samedi. Voilà.
D'accord.
Et pour les réservations, comment on fait ?
Alors, vous pouvez prendre les tickets en ligne. Vous avez un lien PayPal sur la page Facebook de Ikoma Line.
Ça s'écrit comment ?
Ikoma Line, I-K-O-M-A, Line, L-I-N-E. Ikoma, pourquoi ? Parce que en fait, c'est une tribu africaine. Ne pas confondre avec... il me semble aussi que c'est un village au Japon. Mais non, là, il s'agit bien d'une tribu africaine. C'était une tribu Maasai. Mes ancêtres sont Maasai. Et voilà, pour ma mère, c'était très important de vraiment de relier ça à la culture et à nos valeurs. Voilà. Donc, pour elle, Ikoma, c'était très bien. Et pour le coup, vous pouvez nous retrouver sur Facebook et le lien pour pouvoir prendre vos places. Sinon, vous pouvez les prendre sur place. Et, par contre, vous ne pouvez pas rentrer sans PAF, bien sûr. Et il y aura quelqu'un pour garder la porte. Voilà.
Merci, Nicole Marine, pour ces précisions. Et au plaisir de te retrouver, bien sûr, ici. Et pourquoi pas pour refaire de la communication sur un certain nombre d'événements. Alors, Chrissa, est-ce qu'il y a aussi une page Facebook ou bien sûr, il y a la tienne, Chrissa 4.
Oui,
nous pouvons retrouver plein d'infos.
Tout à fait. Il y a mon site internet qui est un blog qui est chrissa.fr. Donc, Chrissa s'écrit C-H-R-Y-2-S-A. Vous y retrouverez tous les liens Facebook, Instagram. La page pour les créations, c'est Chrissa Création, tout attaché, avec un K. Donc C-H-R-Y-2-S-A, K-R-E-A-T-I-O-N-S, Chrissa Création, pour la page Facebook.
D'accord, mais merci pour toutes ces précisions. Vous avez 30 secondes encore pour ajouter quelque chose, si vous avez envie de revenir après cette expérience à Esprit Occitanie.
Avec plaisir. Avec plaisir. C'est un bon moment du partage, des informations intéressantes avec l'appel téléphonique au départ. Très chouette.
Merci. Et merci, Landy, d'avoir quitté tes vacances tarnaises pour venir jusqu'au studio d'Esprit Occitanie. Merci, Jean-Loup Arzac-Fraisse, pour la réalisation, la rediffusion de l'émission aussi dans le week-end et peut-être demain matin. Et vous pourrez retrouver le podcast, bien sûr, sur www.espritoccitanie.fr. L'indicatif est signé de Damien Moreto. Je vous donne rendez-vous dès vendredi matin pour traverser entre 10h et midi avec sur une spécialiste des fleurs de Bach, Maud Gracien, qui vient de publier un ouvrage chez Mosaïque et nous en parlerons, notamment vendredi matin. Et puis, j'ai des attentes pour d'autres invités. Bye bye, à très vite!
Bientôt.